la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Plusieurs auditeurs nous ont demandé de parler instruments.
Et aujourd'hui, ça va être la clarinette.
Oui, nous commençons par la clarinette pour faire pas comme tout le monde. Parce que tout le monde commence toujours par la trompette. Eh ben non, là, nous allons commencer par la clarinette. Sujet tout à fait passionnant parce que en jazz, la clarinette est une véritable réinvention et a tenu, et tient toujours d'ailleurs, un rôle important.
C'est vrai que la trompette, on en parle depuis l'Antiquité. Ça a toujours fonctionné. La clarinette, c'est beaucoup, beaucoup plus tardif.
Ça vient en fait d'un instrument très ancien, qui était le chalumeau.
Le chalumeau, c'est une sorte de grosse flûte, avec un embout un peu évasé.
Juste un peu, mais la clarinette vient d'une idée qui remonte à la fin du XVIIe siècle, l'idée étant d'y ajouter un vrai pavillon.
Et des clés. Vous savez qu'une clé, c'est quelque chose qui vous permet de faire des demi-tons.
Important. Important parce que avant la clarinette ne faisait pas toutes les notes de la gamme.
Par exemple, nous, notre cabrette, je dirais nationalement auvergnate, elle a en tout et pour tout 9 notes et qui sont des trous. Mais par contre, quand on est très adroit, très habile et tout, on peut arriver à faire des demi-tons en bouchant la moitié du trou. Il faut vraiment être très fort. Quand on a une clé, eh bien là, ça se fait tout seul. Il n'y a qu'à appuyer sur la clé, on a le demi-ton.
Oui, mais avec deux clés seulement, on n'attrapait quand même pas toutes les notes. Donc l'instrument a été perfectionné plus tard. Mais entre-temps, il est apparu dans la musique que nous appelons maintenant classique, ancienne ou baroque, ça dépend des moments et des périodes. Et en tout cas, la première apparition, c'est chez Vivaldi.
En 1716.
Puis en France, chez
Rameau. Il faut savoir que Rameau, c'était quelqu'un qui avait une popularité européenne.
Et puis en plus, c'était un type connu pour être curieux de tout. Donc il s'est précipité sur cette idée, sur ce son nouveau. Et puis ensuite, il y a eu Mozart qui a tellement apprécié la clarinette qu'il en a mis partout.
Et qui lui a donné ses lettres de noblesse parce qu'à l'époque, on utilisait la clarinette, mais pour des petites fantaisies. C'était pas dans le grand tralala.
Non, hein, c'était pas un instrument vraiment bien vu. D'ailleurs, Mozart n'était pas bien vu non plus. Il était fait pour s'entendre. Parallèlement à la musique que nous appelons maintenant classique ou ancienne ou baroque, etc., la clarinette a été utilisée par beaucoup de musiques populaires.
Oui, alors vous la retrouvez dans les musiques aussi bien klezmer. Klezmer, c'est les musiques juives. Hein. Orientales, vous en avez beaucoup en Grèce. Par exemple, l'instrument principal grec, vous avez le bouzouki, qui est une sorte de guitare mandoline. Et puis, vous avez la clarinette.
Et chacune de ces musiques populaires a réinventé l'instrument à son image, en quelque sorte. Nous voilà donc dans le jazz.
C'est ça. Elle se prête vraiment à tous les styles. Le jazz, alors, en a fait ses choux gras.
C'est très flexible comme instrument, donc ça a beaucoup intéressé. Nous voilà donc à Nouvelle-Orléans, il y a à peu près 120 ans. Et là, il y avait des familles de musiciens. Et les créoles y tenaient le haut du pavé. Et leur compétence allait du classique à l'opéra, au brass band, à l'orchestre de danse, à tout. Et on y trouvait les meilleurs professeurs.
Ils savaient tout faire, ces gens-là.
Ils savaient tout faire. Un meilleur professeur connu à l'époque était Lorenz Duhay, Lorenzo Tio et Georges Baquet. Et on a un témoignage très émouvant. C'est la rencontre de Sidney Bechet, revenu en Amérique et en Louisiane, rencontrant son vieux professeur et faisant un disque à deux clarinettes.
Ah, c'est vrai que c'est beau ça. Retrouver son vieux prof et lui dire « Regardez comme j'ai bien profité de vos leçons !»
Et là, on s'aperçoit que les professeurs de clarinette créole, ils étaient quand même pas très jazz. C'est assez amusant parce que le père Baquet devant le blues, qui est un blues, il est un peu tâtonnant. Écoutez plutôt.
Thank you.
trompé là. En fait, Sidney Bechet tient le saxo-soprano.
Oui, oui, oui.
C'est un instrument qui, comme le hautbois, est une perce conique, alors que la clarinette est cylindrique. C'est très différent comme résultat.
C'est pas du tout le même son. Hein.
Non, puis en plus, c'est en métal, le soprano. Et là, c'est attendrissant, je trouve.
Oui, et puis alors, c'est joli, parce qu'on a l'impression que Sidney Bechet, il est complètement dans son monde à lui, son monde de jazz. Et le professeur, il y va comme il peut. Techniquement, c'est parfait, mais... Du point de vue de jazz, c'est plus difficile. Et on a l'impression que l'élève, l'ancien élève, c'est-à-dire Sidney Bechet, n'en fait pas trop parce qu'il ne veut pas, enfoncer son vieux prof.
On sent un très grand respect, c'est très... Ouais, mais... Et je peux dire que Bechet ne respecte pas grand monde.
Non,
là, c'est un disque tout à fait spécial.
Là, il respecte.
Dans le jazz, donc, la clarinette vient de la Nouvelle-Orléans. Elle, comme nous disions tout à l'heure, elle y a été en quelque sorte réinventée, et il y a deux grandes écoles. Il y a l'école créole et l'école noire.
L'école créole, bon, un créole, c'est un type qui est en général métisse. Et comme très souvent à l'époque, surtout à l'époque de l'esclavage, ces jeunes métisses étaient élevés par leur père, qui était en général blanc, et qui avait eu un certain nombre d'enfants, souvent très 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 multiples, avec des femmes noires. Ces jeunes métis étaient souvent élevés de façon extrêmement classique, comme le fils de la maison. Hein. Et donc, il restait chez ces garçons-là une culture européenne, je dirais, ces garçons et ces filles, mais c'était surtout les garçons à l'époque pour la musique, et une culture européenne. Donc, il leur en est resté quelque chose, parce que bien sûr, ils se sont quand même tout à fait penchés sur le jazz, eux aussi. C'était... Mais ils étaient un peu, au fond, ils étaient métissés.
Oui, oui.
Dans leur peau et dans leur musique.
C'était dans l'air du temps et du lieu. Et en fait, la Nouvelle-Orléans a synthétisé autour du jazz, et dans le jazz, tout un tas d'apports européens, même espagnols.
Tout à fait.
Mais ces gens ont été considérés très rapidement, à cause des lois raciales et de ségrégation, comme des Noirs. Dès que tu avais une goutte de sang noir, tu étais noir. Donc ils ont été amalgamés. Aux descendants des esclaves.
Oui, par force, parce qu'ils étaient quand même métis, c'est-à-dire moitié-moitié. Ah non, 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 on a dit, vous êtes des Noirs.
Et donc, ces gens-là, ils se sont retrouvés ensemble, ils ont coexisté, puis peu à peu, les choses se sont... Les cultures se sont fondues. Mais il en est resté, à l'origine de la clarinette jazz, ces deux écoles. L'école créole, personne ne la représente mieux qu'un très grand clarinettiste qui s'appelait Jimmy Noon.
Jimmy Noon... Quand on le regarde, eh bien, il ressemblait à un Espagnol très, très, très brun, finalement.
Il y a de ça.
Et il avait une technique, alors, irréprochable.
En plus qu'irréprochable.
Oui.
Il avait une technique hallucinante.
Oui, oui. C'était vraiment un virtuose, c'est le terme. C'était un virtuose. Et il était même tellement virtuose que le musicien français Maurice Ravel, qui était un homme d'une curiosité, on en a déjà parlé dans diverses émissions, c'était incroyable ce que ce type a été regarder les musiques des autres, je dirais, avec énormément d'intérêt profond. Et il a été totalement sidéré par Jimmy Noon.
Il est allé l'écouter. Et il a amené avec lui un clarinettiste classique en le priant de noter quelques-unes des phrases que Noon jouait et de les reproduire plus tard pour essayer d'en dire quelque chose. Et le clarinettiste classique n'y est jamais parvenu.
C'était tellement rapide, tellement souple,
inattendu au point de vue doigté.
Ouais.
C'est un très grand bonhomme. Alors il a tout parce qu'en plus, non seulement il est virtuose, mais il ne le montre pas. Tu sais que le comble de la virtuosité, c'est qu'on ne la sent pas. On la voit comme un décor.
On a l'impression que c'est naturel.
Voici trois morceaux qui illustrent trois aspects de Jimmy Noon. Le premier, pour montrer que, comme tout musicien de jazz, il sait merveilleusement jouer le blues, s'appelle
Apex Blues.
Le second, qui montre également que c'est un grand mélodiste, s'appelle Way Down Yonder in New Orleans. La fin de ce morceau, vous apprécierez. Et le troisième,
I know that you know, ce qui veut dire ah ben je sais ce que vous savez. Hein.
Oui, on se demande d'ailleurs ce qu'il ne savait pas de la clarinette, oui. Le père Noon. Hein,
c'est d'une telle virtuosité qu'il sait tout.
C'est incroyable. Évidemment, on peut comprendre la stupéfaction de Ravel en entendant quelqu'un jouer de la clarinette comme ça. Il faut dire aussi qu'à la Nouvelle-Orléans, les gens ne jouaient pas sur le système qui a prévalu en clarinette, dont tout le monde se sert maintenant, qui s'appelle Boehm. Ils jouaient sur le système Albert, qui était différent, très différent, plus ancien. Et certains se sont convertis au Boehm après. Mais Jimmy Noon, tu sais, on voit ça d'après les photos qu'on en a, est toujours resté fidèle au système Albert. Peut-être ceci explique-t-il cela. En tout cas, son petit orchestre avec saxo alto, clarinette, le jeune Erlines au piano, c'est magnifique. C'est un concept en plus tout à fait intéressant. J'aime beaucoup cet orchestre-là.
Et il faut rajouter que ce qui étonnait les musiciens classiques, c'était bien sûr la virtuosité, mais aussi cette capacité à improviser.
Ah oui, ça.
Parce que ça les bluffait, littéralement. C'est-à-dire, voilà des gens noirs. Mais... il y avait encore beaucoup de racisme. Il y en a peut-être un peu moins maintenant, mais il y en avait beaucoup à l'époque. Ces gens qui étaient des créateurs, des improvisateurs, avec des lignes mélodiques extrêmement belles, ça les sidérait. Et ça, ben, c'est la caractéristique du jazz. C'est l'improvisation.
L'improvisation et le swing. Alors là, ça swing, hein. Voici pour l'école créole, et en face, il y a l'école noire. Et l'école noire, alors là, son plus grand représentant, c'est...
Johnny Dodds.
Johnny Dodds, alors lui, c'est un méchant.
Il n'est pas méchant comme ça.
C'est un type très gentil. Mais musicalement, il joue méchant.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, jouer méchant?
Ah ben vous allez voir, il n'y a qu'à ouvrir l'oreille, vous comprendrez tout de suite. Simplement, il faut savoir que des gens comme ça, quel que soit ce qu'ils jouent, il y a du blues dedans. Et le blues, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. C'est pas un morceau de musique comme les autres. C'est aussi une manière de jouer, une manière même de voir la vie. Et chez Johnny Dodds, ça se sent très bien. C'est un grand technicien aussi, mais ça ne se voit pas du tout. C'est pas un type qui va jouer sur la virtuosité, mais alors, dans le deuxième morceau que vous allez entendre, il est capable de jouer comme un enragé. Trois morceaux, de nouveau.
Alors d'abord, Perdido Street Blues, ça prouve à quel point Johnny Dodds est dans la tradition la plus profonde du blues.
Vraiment les pieds dedans, hein. Jusqu'aux genoux même. Après un très grand disque de Louis Armstrong, du Hot Five de Louis Armstrong, qui ne voulait pas se séparer de Johnny Dodds à cette époque-là. Hein. C'était son clarinettiste attitré. Et ce morceau s'appelle « Maintenant, tout de suite ». C'est qui se dit en anglais, cher ami ?«
Once in a while ».«
Once in a while ». Et là, le solo de Johnny Dodds, c'est une hargne absolument incroyable. Et puis... le dernier, très inspiré, s'appelle...
Clarinette Wobble. Wobble, c'est une de ces danses...
innombrables.
Innombrables, qui étaient à la mode, on ne sait pas quand. En tous les cas, à ce moment-là.
Là, il est en trio, il est très inspiré. Johnny Dodds.
Thank you.
était d'abord guitariste. Il s'était mis à la clarinette à l'âge de 15 ans. C'est un peu tard, hein.
N'exagérons rien.
Tandis que Johnny Dodds, lui, sur un instrument totalement de récupération, il avait commencé enfant et tout seul. Et quand on commençait à parler un peu de lui, King Oliver a voulu l'entendre. Et le jeune Johnny Dodds est arrivé chez King Oliver avec une vieille clarinette réparée avec des bouts de chambre à air et embroulée dans un papier journal.
C'était folklorique, mais ça n'avait rien d'invraisemblable à l'époque.
Non, mais enfin, quand même, ce sacré Dodds... Alors, il avait un frère qui était un formidable batteur et que nous allons retrouver dans le morceau suivant, car il faut naturellement parler des autres pères fondateurs de la clarinette de jazz, car il n'y a pas que Noon et Dodds, il y a ceux qui se situent un peu à part ou un peu entre les deux. Et naturellement, le plus célèbre de tous...
C'est Sidney Bechet. Il faut faire attention au fait que nous, on dit le plus célèbre, mais pourquoi ? Parce qu'il a vécu une grande partie de sa vie en France.
Et qu'il est devenu très célèbre grâce à son saxophone soprano et à tout ce qu'il allait avec.
Voilà, alors, il est surtout connu à cause de ce saxo. Donc là, vous me direz, bah, on parle de clarinette, alors.
Eh bien, alors, Bechet est d'abord un clarinettiste. Sache que son frère, qui était dentiste et qui était un excellent clarinettiste, dans la famille Bechet, on était musicien aussi, hein, avait laissé son instrument sur une table, que le jeune Sidney, qui avait à l'époque 6 ans, s'en est emparé, et que quand Léonard Bechet, son grand frère, est rentré chez lui et de son cabinet, quand il a entendu ça, il a renoncé dans l'instant à jouer de la clarinette, il a laissé l'instrument à son jeune frère, et le petit frère en a bien profité. Voilà. C'est un formidable clarinettiste, Bechet. Et d'ailleurs, nous allons l'entendre immédiatement.
Avec Blues in Thirds.
Blues avec des tierces. Parce qu'ils savent quand même ce que c'est qu'une tierce, figure-toi.
Mais oui, ils savent, mais ils s'en servent finalement comme sa nature. Allez.
Et là, on retrouve Earl Hines, le pianiste qu'on a entendu tout à l'heure avec Jimmy Noon quand il était plus jeune. Et un batteur qui est le petit frère de Johnny Dodds, un des plus grands batteurs de Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Warren Dodds, dit Baby, puisque c'est le petit frère. Thank you. Une autre belle figure, également fondatrice, était...
Homère Siméon.
On ne peut pas rêver alors, plus...
Alors, écoutez ce nom.
Homère Siméon.
Ça sonne comme le nom d'un orchestre de cirque. On peut pas être plus joyeux dans la façon de se présenter. Homère Siméon. Et pourtant, c'était quand même quelqu'un de très bien, très sérieux et très musicien.
Très, très musicien, puisqu'il a même terminé sa carrière dans le grand orchestre de Earl Hines à Chicago, puis dans l'orchestre de Wilbur de Paris, où vraiment il fallait mouiller son maillot. Hein. C'était un orchestre où les choses étaient exigeantes, très exigeantes. Le jeune Homère Siméon, en fait, il est très peu connu de la Nouvelle-Orléans parce qu'il a été l'objet d'un transport à Chicago familial. Tu sais, beaucoup de gens sont montés...
Oui, bah, il fallait aller là où il y avait du travail. Hein.
Et donc, le jeune Homère s'est retrouvé à Chicago à apprendre la clarinette, mais avec Lorenzo Tio, parce que Lorenzo Tio avait aussi fait le voyage. Ils sont tous partis, finalement. Donc, c'est donc un élève de Lorenzo Tio. Et alors, lui, il se situe à mi-chemin entre Noon et Dotes, finalement. Il a le côté fluide de l'un... et l'âpreté de l'autre à la fois. Alors, quelquefois, il tend vers un bord ou vers l'autre, mais il est un peu au milieu. Et là, nous le retrouvons avec Jelly Roll Morton, car il faut savoir que Jelly Roll Morton a été un très grand consommateur de grands musiciens louisianais au cours de séances, souvent assez homériques. On y reviendra tout à l'heure.
Oui, il n'était pas commode, le père Jelly Roll. Hein. Les musiciens qui jouent avec lui, ils mouillaient un peu. Hein.
Voici nonobstant un morceau où le clarinettiste Homère Siméon est très en valeur, qui s'appelle...
Black Bottom Stomp. Ce Black Bottom Stomp, on en parle sans arrêt. C'était le Black Bottom, c'était encore une danse à la mode.
Plutôt chez les Noirs, vu son titre, nous ne nous attendrons pas davantage sur le Black Bottom. Thank you. Voici maintenant un cas, il s'appelle Barnabé Bigard, comme le fantaisiste bien connu.
Encore des noms français, hein.
Encore des noms français. Alors lui, il était créole également, mais il était tellement clair de peau que dans les États du Sud, personne ne s'étonnait de le voir aller dans un hôtel normal.
C'est ça, lui, il pouvait passer pour un blanc.
Et il en a bien profité à certaines occasions et fait profiter les copains d'ailleurs. Enfin, ça, les anecdotes fourmis, on ne peut pas...
Naturellement, on ne peut pas tout raconter.
C'est aussi un enfant de Nouvelle-Orléans et lui, il était saxophoniste. Et tu sais, les saxophonistes dans les orchestres de l'époque, ils jouaient un peu de clarinette aussi pour, avec le voisin de pupitre, faire des duos, ou s'il y en avait plusieurs, des trios, mais ça n'allait pas plus loin. Et puis il était chez King Oliver, il a été repéré par le jeune Duke Ellington, qui l'a recruté, et qui lui a dit « Je te prends, mais là maintenant, tu vas te mettre à la clarinette. » Parce qu'Ellington aimait beaucoup les gens du Sud. Et tu sais que le premier saxo-clarinettiste d'Ellington a été Sidney Bechet, qui n'est pas resté chez Duke, parce qu'il avait trop mauvais caractère. Et Duke cherchait en fait quelqu'un de Nouvelle-Orléans qui puisse donner cette touche-là dans un orchestre.
Voilà, cette espèce de moelleux de la Nouvelle-Orléans.
Et là, évidemment, Bigard a travaillé à la clarinette, il s'est montré absolument l'égal des plus grands. Il est plutôt côté Jimmy Noon, mais pourtant Bigard, on peut le confondre avec personne, on le reconnaît tout de suite. Voici une sorte de concerto pour clarinette qu'Ellington composa pour lui et qui s'appelle...
Clarinette Lament. Ça vous dit évidemment tout, hein, lamento, lamentation.
Et pourtant, c'est pas triste. Mais il y a
Oui.
Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce morceau, c'est l'arrivée au premier tiers des harmonies du rêve d'amour de Liszt, qui ont servi à faire le fameux Basin Street Blues en particulier. Il y a une rupture d'atmosphère qui est très très réussie dans cet arrangement. C'est magnifique. Clarinette Lament.
C'est tout simple et c'est bien beau.
Ah, c'est très beau. Ah, mais Ellington, c'est généralement très beau. Et là, il a su faire une sorte de musique compatible avec même le son de la clarinette, qui est absolument magnifique. C'est un très grand morceau de clarinette et d'Ellington, clarinette lament.
Et maintenant, on va passer à Albert Nicolas.
Oui, figurez-vous, nous n'avons pas connu Jimmy Noon et Johnny Dodds, qui sont morts à peu près à l'époque où nous naissions nous-mêmes. Nous n'avons pas connu Bechet que par ses 45 tours et les surprises parties auxquelles nous avons eu le bonheur de participer. Et pas davantage Homer Siméon. On a aperçu Barney Bigard quand même, puisqu'il a fini sa carrière avec Lou Armstrong, puisqu'il est venu en France un peu plus tard. Mais alors là, Albert Nicolas, on l'a vraiment bien connu. Car il vivait en Europe et il avait quelques attaches à Paris et nous ne manquions pas de le rencontrer et d'aller l'écouter.
Oui, on a eu ce bonheur d'avoir Albert Nicolas chez nous, à la maison, dans notre petit quartier à Paris. On a écouté des tas de choses ensemble, parce qu'un des grands plaisirs des musiciens quand ils venaient dîner, d'abord, c'était la cuisine française, alors on se mettait en quatre, naturellement, mais aussi, c'était de se poser dans un fauteuil confortable et d'écouter certaines choses. Et on leur demandait d'ailleurs toujours, qu'est-ce que vous voulez entendre ? C'était un grand plaisir à ce moment-là. Ils écoutaient, ils choisissaient. Voilà.
Il faisait ce qu'il voulait, et puis naturellement, il racontait, et Albert Nicolas, qui parlait français, racontait très bien. Et notamment, il nous a raconté la séance d'où le morceau qui va suivre a été tiré, avec Jelly Roll Morton. Il s'agira d'un morceau qui met le clarinettiste très en valeur, puisque c'est le fameux High Society, où le solo initial d'Alphonse Picou sur la partie de Piccolo est resté légendaire et pratiquement rituel. Et Albert Nicolas nous a raconté Jelly Roll Morton en train d'organiser et de superviser depuis son piano une séance d'enregistrement. Et c'était pas triste.
Tout le monde, le petit doigt sur la couture du pantalon, en se disant, pourvu que j'en prenne pas une.
Jelly Roll Morton arrivait à la séance avec toute sa doc, parce que lui c'était un créole totalement instruit au point de vue musique. Il savait écrire la musique, il savait la lire, enfin, il savait tout faire avec.
Et il était hyper organisé.
Très organisé, et il savait exactement ce qu'il voulait à l'accroche près.
Donc, les joyeux musiciens qui jouaient beaucoup, beaucoup d'oreilles, on les laissait, mais quand ils donnaient des consignes, il ne s'agissait pas de se bagnauder ailleurs.
Il fallait faire ce qu'il disait exactement. Et alors, dans cette séance, en particulier, à un moment donné où il en a eu assez de voir la musique qu'il voulait exécuter un peu de travers, il a plaqué un grand accord sur son piano, tout le monde s'est arrêté, et s'est écrié « Mais qu'est-ce que vous me foutez là, bande de nègres ?»
Maintenant, il aurait aussitôt un procès. À l'époque, ils ont regardé le bout de leurs souliers, ils ont dit ben, « qu'est-ce que tu veux ? On va travailler ?»
Et là, le jeune Zooty Singleton qui tenait la batterie et qui était particulièrement insolent, l'a regardé et lui a dit « Yes, face ?» Ce qui veut dire à peu près « Oui, mon gars ?» Enfin bref, ils sont quand même arrivés à terminer la séance. Et voici ce fameux High Society avec Albert Nicolas à la clarinette. Là, tu as pu remarquer que la clarinette n'apparaît qu'en second, puisque la première citation de ce fameux High Society est réservée au saxophone soprano de Sidney Bechet. C'est Albert Nicolas qui vient après, et on peut mesurer à quel point il est de l'école Jimmy Noon, avec ses espèces de fluidité, ses notes piquées dedans, et tout un contexte finalement extrêmement mobile. Heureusement, il nous reste un petit peu de temps, car ce panorama des grands clarinettistes Nouvelle-Orléans ne serait pas complet sans Darnell Howard. Et lui, l'exception confirme la règle, il n'était pas louisianais, il était né à Chicago, mais tout se passe comme s'il était de là-bas. Vous allez pas vous en rendre compte avec ce mémorable « Everybody loves my baby » où Darnell Howard démontre que sa culture musicale ne s'arrête pas aux frontières du blues. Vous entendrez citer Mozart dans ce morceau, ce qui est assez étonnant. Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.